l'Élysée qu'on devrait être tous. On est assez nombreux, on y va tous. À l'Élysée. Devant l'Élysée, là, Macron. Parce que là, c'est eux qui payent les gens, là, les pauvres. Je suis dégoûtée.
Depuis quelques années, les revendications sociales ou sociétales donnent lieu à des manifestations qui finissent parfois en bataille rangée. On pense à celle des gilets jaunes, à celle contre diverses lois, travail, sécurité globale, plus récemment à celle contre le pass sanitaire. Il y a aussi les actions autour des ZAD, ces autoproclamées zones à défendre, de Sivens, où Rémi Fraisse a perdu la vie, à Notre-Dame-des-Landes, ou encore au happening, pacifiste cela, du mouvement Extinction Rebellion.
Depuis un certain nombre d'années, on voit en tout cas apparaître de façon assez évidente un rejet des manifestations traditionnelles. Et très clairement, en fait, il y a une tentative d'éprouver le politique, de l'éprouver réellement dans le corps. Et effectivement, l'émeute, c'est un moment où on éprouve physiquement le politique.
Souvent mise en cause dans ces actions et leurs éventuelles dérives, l'ultra-gauche. Une expression finalement commode pour généraliser, mais qui regroupe en fait une véritable mosaïque de mouvements très divers.
Moi, j'étais vraiment sur le modèle de mai 68, c'est-à-dire l'idée que par l'émeute, on allait préparer la grève générale.
Dans certaines manifs, retentit parfois le cri de ralliement des Black Blocs, le fameux AOU, tant redouté par les riverains que par certains manifestants. Le premier Black Bloc spectaculaire a été observé au contre-sommet de l'OMC à Gênes il y a 20 ans. En France, le plus important s'est réuni le 1er mai 2018 à Paris. Camille, c'est un prénom d'emprunt, y était. Laurence Perron a rencontré ce quinquagénaire alors qu'il se préparait à se rendre à une manifestation contre la loi dite de sécurité globale en décembre dernier. Ultra-gauche ou le grand fatras idéologique, c'est un reportage de Laurence Perron.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Bonjour. Rentrez, il n'y a pas de souci. Ok.
Alors, on s'est entendu. Tu ne veux pas que je donne ton nom, tu ne veux pas que je donne ta profession non plus, mais t'es quelqu'un qui est inséré dans la société, t'as un travail depuis longtemps, t'es pas en rupture de banc avec la société, on peut pas dire ça.
Oui, effectivement, je suis cadre administratif depuis 15 ans maintenant. Je suis totalement bien inséré, aussi bien dans le tissu social que dans l'actualité au quotidien.
En revanche, tu as commencé à un moment donné à vouloir manifester ta colère autrement que en votant, en portant un bulletin dans une urne ou simplement en manifestant. Tu t'es rapproché finalement des gens qui font le Black Bloc, hein, parce que faut bien expliquer que le Black Bloc, ça n'est pas une organisation.
Ce mouvement, qui date effectivement de plusieurs années, est né au-delà du mécontentement d'une idéologie politique. Par contre, plus récemment, on a pu voir les gilets jaunes, on a pu voir effectivement les manifs du 1er mai qui se sont mal passés parce que le Black Bloc, hein, nous sommes effectivement passés au premier rang. Pourquoi ? Effectivement, il fallait mettre en avant nos idées et surtout imposer notre vision. Parce que nous ne sommes pas entendus, le peuple français, notamment celui qui manifeste, ne peut pas se mettre au premier rang, donc nous le faisons pour lui. Nous ne sommes pas un mouvement d'extrême gauche, d'extrême droite. Par contre, et pour beaucoup de citoyens décidés, j'ai pu croiser avec mes collègues, parce qu'on appelle ça les collègues quand on est du Black Bloc, voilà, des pères de famille, des pré-ados, peut-être 16 ans ou 18 ans, mais qui mettent le masque comme moi. Mais notre idée, c'est de faire réagir les pouvoirs publics. Et si nous pouvons, par nos actions, faire changer l'idée, l'orientation des politiques publiques, oui, nous serons présents et par la violence.
Le Black Bloc, tu l'as dit, ça n'est pas une organisation. T'appelles pas tes copains du Black Bloc avant de partir en manifestation. Comment ça se passe? Là, tout à l'heure, tu vas partir parce qu'il y a une manifestation ce samedi. Tu peux me montrer un petit peu ce que t'as préparé? Comment ça se passe? Tu montres?
Voilà, donc là, j'ai un sac avec à l'intérieur un cahouet tout noir. Et puis, dans ce cas, voilà, donc une cagoule, parce qu'effectivement, il ne faut pas qu'on se fasse reconnaître. Et puis, également, nous avons des techniques pour entrer dans certaines habitations, parce que la police met en place des mouvements préventifs. Notre technique, c'est de venir 2-3 jours avant, de repérer les lieux, de trouver des lieux propices pour mettre nos sacs à dos en place dans la ville de Paris. Et en fait, nous sortons au dernier moment. Et là, au dernier moment, nous rejoignons la tête du cortège. Les gens en prennent, nous avons des cris de ralliement. Et en fait, ça se fait naturellement. Tous ceux qui sont habillés en noir, on passe sur les côtés, on passe entre les manifestants et on se rejoint en tête de cortège. Nous avons des fumigènes. Le noir est d'ailleurs la couleur que ça va mal se passer, qui aurait effectivement des troubles à l'ordre public. Mais nous pensons que la politique menée par ce ou ces gouvernements mérite cela. Après, nous ne sommes pas des gens inciviles, des gens très méchants. Nous attaquons effectivement les institutions pour faire réfléchir le peuple. Nous sommes très proches du peuple, même si jamais effectivement les médias décide de réduire ses mouvements à des simples violences. Le fond n'est pas cela. Le Black Bloc est là pour défendre l'intérêt collectif, l'intérêt des familles modestes, l'intérêt des lois qui ne sont pas effectivement efficientes au-delà de ce que les Français peuvent attendre. Le Black Bloc est là. Alors, c'était pas Robin des Bois, mais il y participe et il se définit aussi comme cela.
Ce jour-là, Camille part donc manifester à Paris contre la loi Sécurité Globale. Place du Châtelet, Laurence Perron rencontre, dans le cortège, Fadi. C'est un militant marxiste-léniniste, se revendiquant du très orthodoxe et historique communisme révolutionnaire.
Ah ben il est là. Ça y est, on est arrivé. Nous sommes là sur la place du Châtelet, à Paris. Samedi 12 décembre 2020, une manifestation qui a été autorisée, contrairement à ce que disent la plupart des policiers qui ont du mal à laisser rentrer les gens à l'intérieur de cette place. Nous sommes complètement nassés, des forces de police imposantes partout, qui protègent les bâtiments, qui protègent les banques, qui protègent les boutiques. Et une manifestation qui paraissait un peu croupionne, mais finalement, des petits groupes sont arrivés un peu partout. Et donc là, je suis avec Fadi, qui a un grand drapeau, Parti communiste.
Pôle de renaissance communiste en France. D'ailleurs, on n'a pas qu'un, parce que nous, on associe le drapeau rouge et le drapeau tricolore, comme le faisait le PCF à une époque. Ça fait malheureusement quelques décennies qu'il ne le fait plus. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement les deux drapeaux de la Révolution. Le drapeau de la Révolution française de 1789 et de 1793 pour la souveraineté nationale et populaire. Et puis le drapeau rouge, le drapeau des travailleurs en lutte, qui a donné lieu à la Commune, la Révolution d'octobre en Russie, voilà.
Votre filiation, c'est clairement le léninisme.
Le marxiste-léninisme. Le marxiste-léninisme, très clairement, non seulement on le revendique, mais on le prolonge. Vous savez, même des gilets jaunes avec lesquels nous sommes en contact, quand nous leur lisons des extraits de Lénine, ils disent mais c'est aujourd'hui, en fait. Eh bien oui. Mais oui, c'est aujourd'hui. Et donc nous, ce que l'on reproche justement au Parti communiste, c'est d'avoir abandonné. Si le Parti communiste était vraiment marxiste-léniniste encore aujourd'hui, on est persuadé qu'il ferait vraiment de très gros scores. Donc nous, on essaie, on milite pour ça, pour que renaisse un grand Parti communiste sur des bases franchement marxiste-léninistes. Et quelque part, le mouvement des Gilets jaunes, ça a réintroduit ce qui existe, mais qui n'était plus dit, à savoir la lutte des classes. Eh bien, ce sont ces gens-là qui luttent pour justement finir avec cet ordre euro-atlantique capitaliste.
Est-ce que vous pensez qu'on pourrait être en ce moment dans un état un peu pré-insurrectionnel ?
À vrai dire, on sent que c'est en train de bouillir. On ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, on ne sait pas si ça va exploser, mais on voit bien qu'il y a un immense ras-le-bol.
On va se revoir sans doute dans la manifestation.
Merci. C'est quel métier ? Si je me fais interpeller.
Là, on est boulevard Sébastopol et ça charge. Ils veulent empêcher les gens d'aller à la République, en fait. Ils veulent que ça s'arrête là maintenant. C'est très tendu, hein, quand même. Hein. On entend là, la charge qui vient d'être lancée a fait. Il y a eu un effet de lumigène et un son étonnant. C'est très violent. Et alors que ça menace de recharger à côté, là, il y a un son. Voilà, on écoute Bob Marley. Il y a un côté quand même très bon enfant dans cette manifestation, vraiment. Pas de dégradation. Il y avait, de la part des manifestants, véritablement la volonté de former un black bloc pour impressionner un peu. Et pour... voilà, ça fait partie de la stratégie politique hein, aussi de, dans ces manifestations-là. Le black bloc n'a pas pu se former, mais il n'a même pas tenté de se former. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les forces de l'ordre, quand ils ont vu, parce qu'ils connaissent maintenant les endroits stratégiques où le black bloc peut se former, sont rentrés dans la manifestation, ont fait 2-3 interpellations, ont chargé, envoyé des grenades de désencerclement, ce qui fait que le black bloc ne s'est pas formé. Mais en revanche, là, il y a un... potentiellement des risques de très grande violence à la fin de la manifestation. Parce que là, du coup, on a fait monter la pression.
Vous soutenez ! Vous soutenez qu'on se fasse taper dessus ! Il n'y a rien ! Il ne s'est rien passé ! On n'a rien fait ! On n'a rien fait ! Et vous nous avez tapé ! Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? On manifeste pour nos droits. On est en France, ici, regarde ! C'est pour nous !
Avant, s'il te plaît,
et nous, on fait quoi, nous ?
Il faut être bien là. En sécurité quand même.
Ça y est, on reste tout par là.
Ils vont quand même nous tabasser.
Par quoi ?
Là, il y a des mouvements absolument dans tous les sens, c'est hyper dangereux. Il y a un blessé là qui est en train d'être soigné par les street medics. Ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Comment il va ?
C'est le front, ça va ?
C'est le front, c'est pas l'œil.
Attention, brave en mouvement !
Et les braves qui interpellent. Donc là, il y a un cordon de street medics, de secouristes, qui sont des secouristes volontaires et qui, du coup, font un cordon autour de quelqu'un qui a été blessé au front. Ça s'est passé au moment d'une charge des braves. C'est policiers très, très mobiles. Très réactif, vaut mieux pas être sur leur passage.
Le vrai nom des Braves, c'est Brigade de répression des actions violentes motorisées. Il s'agit de binômes de policiers à moto chargés du maintien de l'ordre. Didier Lallemand, préfet de police de Paris, les a créés en mars 2019 pour contrôler les manifestations de gilets jaunes. Les manifestants les assimilent souvent aux policiers voltigeurs de la fin des années 80, dont l'engagement avait provoqué la mort de Malik Houssekine.
Ça, c'est la brave, là. C'est eux qui ont chargé. Là, c'est les filles qui nous nassent. Ouais, c'est le CRS qui nous nasse. Voilà. Ouais, voilà. On peut faire des belles rencontres, mais on est serrés.
Là, ils ont repéré le groupe des blocs. Ils ont repéré les blocs qui étaient derrière nous.
C'est la honte.
Mais comme tu le vois, là, c'est les flics qui vraiment nous attendaient. C'est un traquenard des flics. Ouais. Et ils ont pris en tenaille les manifestants pour scinder les cortèges, arrêter qui vole pour des... Maintenant, ils tuent la manif dans l'œuf. Ils empêchent les gens de manifester.
Et toi, tu fais beaucoup de manifs ?
Toutes les manifs.
Ouais.
Depuis 2 ans, ouais.
Comme gilets jaunes ou comme...
Gilets jaunes, mais...
Militants.
Mais le Black Bloc, c'est un mode opératoire, donc on est tous Black Bloc. Hein. Ne jetez pas la pierre à ces révolutionnaires, on est derrière.
C'est dingue ! Utile et qui est mort. Ça fait 2 ans que ça dure.
C'est dingue. Je suis halluciné, quoi.
Mais là, c'est rien. Ouais, ce qu'ils veulent, c'est nous déboîter jusqu'à,
ouais.
Jusqu'à République. Et après, ils vont se plaindre comme quoi la population, elle est hargneuse.
C'est bien qu'on soit là, mais c'est à l'Élysée qu'on devrait être tous. On est assez nombreux, on y va tous. À l'Élysée. Parce que là, c'est les gens qui sont en train de souffrir, là.
Macron, démission.
Gaz.
Mais continuez à avancer. Hein. Ouais. Si vous en avez dans les yeux, allez sur les côtés. Généralement, il y a des gens
qui tiennent bien.
C'est sympa, là, c'est la rentrée des classes. Ça nous avait manqué la petite odeur de lacrymogène, etc. C'est sympa. Content de voir que tout le monde est là, que ça se réveille et qu'il y ait du monde. Oui, ça fait super plaisir. On est beaucoup, on est nombreux. Et c'est génial parce qu'on commence à rentrer dans un état autoritaire de ouf. Donc voilà, ça fait plaisir. Bonne journée à vous, France Inter.
Les autonomes, les anarchistes, insurrectionnalistes ou non, ce que certains, par paresse, qualifient d'ultra-gauche, est une réalité très éclatée. Elle l'a toujours été. Le 30 juin 1998, une centaine de chômeurs envahit le Conseil constitutionnel. Un étudiant de 25 ans, crâne rasé, s'empare d'un des 10 exemplaires de la Constitution et il y inscrit au feutre rouge « La dictature capitaliste est abolie, le prolétariat décrète l'anarchie et le communisme ». Puis il le déchire, il s'appelait Sébastien Chiffre, il a aujourd'hui 48 ans, un parcours de lutte qui l'a fait côtoyer les autonomes, l'anarcho-syndicalisme de la CNT, la Confédération Nationale du Travail, ou les animateurs de la revue Tycoon, à laquelle contribuaient Julien Coupa et ce Tarnac, auteur de l'insurrection qui vient.
Donc je m'appelle Sébastien Chiffre, je me définirais comme anarchiste, communiste anarchiste. Bah moi j'ai commencé à militer en 1993. Mais au départ, j'ai commencé par Génération Écologie. Après, je suis passé chez les Verts. Et puis après, je suis passé chez les anarchistes. Et en fait, j'étais assez déçu par rapport à cette mouvance libertaire institutionnelle. Pour moi, c'était un peu des anarchistes de salon, quoi. Et voilà, moi, j'avais cette frustration voilà, dans les manifestations. Enfin, moi, clairement, j'étais un casseur. Et la CNT, elle essayait de se donner une image respectable, c'est-à-dire justement d'expliquer qu'ils n'étaient pas des casseurs.
Et l'idée de casser, ça venait d'où ?
C'était vraiment une référence à mai 68. Moi, j'étais vraiment sur le modèle de mai 68, c'est-à-dire l'idée que par l'émeute, on allait préparer la grève générale. Rapidement, j'étais déçu par le comportement de la CNT, enfin, qui pour moi restait dans un cadre légal. Pour moi, c'était pas cohérent avec les principes libertaires. Je considérais que voilà, si on était anarchiste, on devait sortir du cadre légal. C'est comme ça, voilà, que je me suis retrouvé avec les autonomes, sachant que voilà, donc moi, j'étais déjà à la coordination des sans-abri au squat de la rue Saint-Sauveur à Paris, et au squat de la rue Saint-Sauveur, il y avait un autre collectif qui s'appelait Travailleurs, chômeurs et précaires en colère. Voilà. Et donc ça, en fait, c'était le début du mouvement des chômeurs. Notre activité, ça consistait essentiellement à intervenir dans les caisses d'allocation familiale, au bureau des assédiques et dans les mairies pour essayer, par exemple, voilà, d'empêcher une radiation de RMI, pour essayer d'obtenir de logements. En gros, on était un peu les assistantes sociales de choc. C'est-à-dire, on arrivait à la caisse d'allocation familiale, on donnait des coups de pied dans les portes. Et comme ça, en faisant pression, on arrivait à obtenir un logement ou un petit peu d'argent, des aides sociales comme ça, ponctuelles. Et c'est comme ça qu'on a préparé en fait le mouvement des chômeurs de 1998. Et donc, c'est le moment en fait où on organise des autoréductions, c'est-à-dire en fait des pillages de supermarchés. Bon, le mouvement va se radicaliser et ça va aboutir en fait au pillage du magasin Cash Converters.
Le 11 février 1998, le magasin Cash Converters du 11e arrondissement de Paris était attaqué et pillé par une centaine de manifestants. Ceux-ci entendaient redistribuer les marchandises mises en dépôt-vente par les pauvres.
Donc en fait, le pillage de Cash Converters, bon, ça a été un peu la fin du mouvement des chômeurs et ça a été un peu le symbole de cette radicalisation en fait, du mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, dans le mouvement des chômeurs, il y avait une tendance plutôt proche de AC, Agir Ensemble Contre le Chômage, qui, eux, revendiquaient le revenu garanti, alors que nous, c'était plutôt l'idée du communisme immédiat, c'est-à-dire que, voilà, en pillant des magasins, on allait réaliser le communisme tout de suite. C'était plutôt ça l'idée, quoi. Et donc, on était clairement en porte-à-faux par rapport à la LCR, par rapport aux trotskistes, qui, eux, étaient dans des revendications réformistes, les 35 heures de réduction du temps de travail. Nous, on était directement pour faire la révolution tout de suite. Donc, c'est pour ça que, quand ils ont occupé le Conseil constitutionnel avec l'association Droit au logement, pour dire que, en fait, la loi de Martine Aubry était anticonstitutionnelle parce qu'elle n'accordait pas aux chômeurs des moyens de subsistance décents pour vivre. Bon, moi j'arrive, je déchire la Constitution, voilà. Et j'écris « La dictature capitaliste est aboli, le prolétariat décrète l'anarchie et le communisme. Voilà, c'est ce que j'ai écrit sur l'exemplaire original de la Constitution de 1958. Donc ça, c'est typiquement le type d'action, voilà, où on déborde les organisations d'extrême gauche pour radicaliser dans une perspective révolutionnaire. Donc évidemment, j'ai été arrêté par la police, je suis passé en procès et j'ai été condamné à 8 mois de prison avec sursis.
Quand on parle de l'ultra-gauche, en réalité, ça ne veut pas dire grand-chose, on est d'accord?
Pour moi, l'ultra-gauche, c'est le courant conseilliste. Moi, dans ce sens-là, je suis vraiment de l'ultra-gauche parce que je me réfère vraiment aux conseils ouvriers, c'est-à-dire aux assemblées ouvrières et à la grève générale, la grève générale expropriatrice, la grève générale qui doit exproprier les moyens de production pour aller vers une révolution autogestionnaire. C'est vrai que j'étais plus souvent avec Tikkun. Tikkun, c'est la revue de Julien Coupa. Voilà, Julien Coupa, évidemment connu pour l'affaire de Tarnac, c'est-à-dire voilà, des gens qui critiquent la société industrielle et qui considèrent qu'en fait, c'est pas suffisant de supprimer le capitalisme, qu'il faut vraiment démanteler toutes les structures industrielles. Et ça, en fait, c'est ce que fait la ZAD. C'est l'idée, voilà, d'aller partir s'installer sur la ZAD, d'aller partir s'installer à la campagne pour vraiment recréer une autre société, quoi.
Les ZAD, pour zone à défendre, se sont multipliées depuis quelques années. La plus emblématique a été celle de Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, dont l'action a conduit à l'abandon du projet d'aéroport. Près de Paris, le collectif pour le triangle de Gonesse, le CPTG, a lutté pendant près d'un mois contre l'implantation d'une gare sur 110 hectares de terres agricoles. Avant l'évacuation de cette ZAD, Laurence Perron était allée voir les militants.
Interception sur France Inter.
Voilà, vendredi 19 février, on se trouve dans un lieu dit le triangle de Gonesse, qui est occupé par une ZAD, une toute nouvelle ZAD. Ça fait une semaine en réalité que les gens sont venus pour essayer de défendre des terres agricoles menacées par la construction d'une gare. Donc là, ils sont à peu près une centaine, je pense, aujourd'hui, de ZADIS qui se relaient pour que le lieu ne soit jamais inoccupé. Et alors, ce qui est très frappant, c'est que je suis venue hier et tout était absolument tagué avec des slogans. Et manifestement, des gens sont repassés cette nuit pour repeindre par-dessus. Et donc, du coup, je peux leur poser la question, parce que là, ils sont en train de peindre. Il y a en face de moi un des ZADistes avec sa bombe qui est en train de remettre du slogan là où ça a été complètement enlevé.
Ouais, toi aussi, attention à toi.
Salut, je suis passée hier. Yes. Et c'était joli, il y avait des tags partout.
Ouais, mais ils ont tout remis en blanc ce matin. Ça les a occupés, ils ont dépensé 12 000 euros. Voilà. Ils ont un peu gâché voilà. Ils ont nettoyé un peu tout partout. Et puis au final, ça va être refait dans une heure et demie. Et puis ça va nous occuper. Ça va nous occuper, mais il n'y a pas de réelle intention de nuire ou quoi que ce soit. Machin. C'est juste qu'ils veulent nous casser les couilles.
Donc on est là à l'entrée de la ZAD, c'est donc une grande palissade de tôle, deux grandes portes retenues par un cadenas. Et il y a toujours quelqu'un ici en permanence pour garder la porte, laisser rentrer les gens qui viennent, dormir la nuit, s'informer. Et bah là c'est toi qui as hérité de ce poste de gardien.
Ouais c'est ça, là c'est moi, ouais. Là je suis la vigie, je suis pas tout seul d'ailleurs.
La ZAD comme moyen d'action, ça te paraît être le moyen le plus performant pour défendre cette lutte-là?
Le plus performant, je suis pas certain. C'est un moyen d'action en tout cas pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est autre chose. Pour certaines personnes, c'est bien un moyen d'action. En fait,
ça ne sont pas les policiers.
En fait, ce qui est compliqué, c'est que dans la construction donc du stéréotype du zadiste ou de la zadiste radicale qui voudrait pas changer ses positions, on nous oppose toujours des projets d'utilité publique, d'intérêt général. Et ça, c'est compliqué parce qu'en fait, personne n'est contre la création de logements, le fait de voir émerger de nouveaux logements sociaux, de créer, par exemple, à Aubervilliers, une piscine en vue des Jeux Olympiques, mais qui devrait servir ensuite aux habitantes. Bon, on n'est pas certain que ça serait le cas, mais c'est la promesse qui nous est faite. Quand on regarde la ZAD du Carnet, on parle d'un laboratoire expérimental d'énergie renouvelable. Mais qui peut être contre ça? Évidemment, on est pour la transition énergétique, on est pour le droit au logement. C'est des choses qu'on défend ici à l'intérieur de la ZAD. Mais en fait, je crois qu'il y a une forme de mauvaise foi et de mise en opposition de projets qui ne devraient pas l'être. Il y a suffisamment de place dans les friches urbaines pour pouvoir préserver ces terres agricoles, d'une part, et d'autre part, participer...
C'est qui?
Les flics.
Ah, les flics arrivent. Ah, d'accord. On ferme, ok.
Mosquito, ferme.
Il faut fermer. S'ils vous demandent d'entrer, vous les laissez rentrer ou pas?
Non,
ferme.
À partir de quand tu as décidé de t'engager physiquement dans la lutte pour une société différente?
Je pense qu'à partir du moment où il y a eu de la déception, en fait, enfin, on grandit tous avec ce qu'on voit... On écoute, on observe, on regarde, et puis il n'y a qu'à voir comment les gilets jaunes, les soignantes ont été traitées par le gouvernement d'Emmanuel Macron les derniers mois et les deux dernières années, si on parle des gilets jaunes. Et le point que moi j'aimerais partager à tout le monde, c'est qu'en fait, quand on s'engage, quand on prend position, on a forcément peur, entre guillemets, parce que des personnes en face sont prêtes à mettre de la pression, à avancer des arguments, à vous catégoriser, à vous cataloguer, à vous discriminer, vous rabaisser. Et c'est exactement ce qu'on fait à propos des zadistes. Parce qu'aujourd'hui, à qui on doit la sauvegarde des terres de Notre-Dame-des-Landes? À qui on doit le Larzac dont tout le monde est content? Aux zadistes, ou à l'équivalent de ces zadistes.
50 ans qu'il cherchait à décoller, le Premier ministre a donc confirmé ce midi que le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes était définitivement enterré.
Je constate aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Il s'agit bien d'une victoire historique face à un projet d'aménagement destructeur. Celle-ci aura été possible grâce à un long mouvement aussi déterminé que divers.
Il aura donc fallu attendre 10 mois pour officialiser la décision de l'État de renoncer au grand barrage de Sivens. 1,5 million de mètres cubes d'eau, une quarantaine d'hectares, dont environ un quart situé dans une zone humide riche en biodiversité.
Le département a décidé hier trois choses. D'abord, un barrage plus modeste de 750 000 mètres cubes, à plus ou moins 10% près. Il sera réalisé sur le site de Sivens, sans doute à un autre endroit que celui où a été tué Rémi Fraisse.
Une bulle aquatique transparente en plein milieu de la forêt iséroise à Roibon, près de Grenoble. 1 millier de logements, des commerces, des restaurants. Un projet de 390 millions d'euros qui finalement ne verra jamais le jour. Et l'occupation du site par des zadistes depuis 2014. Il n'y aura pas de center park à cet endroit.
Et les zones à défendre font des petits. Il y avait eu le barrage de Sivens, Notre-Dame-des-Landes. Et voici que la mobilisation s'organise contre le stockage de déchets nucléaires dans la Meuse, contre le projet de centre d'enfouissement de Bure.
Ces gens-là ont décidé de montrer leurs muscles, mais qui les montrent, et nous on va montrer ce de quoi on est capable.
Vous vous appelez comment?
Je m'appelle Aski et je suis à Extinction Rébellion. J'ai 19 ans. Ouais.
Et à quel moment vous vous êtes dit je peux plus continuer ma vie d'étudiant comme ça, je suis obligée de m'engager dans un groupe qui a des modes d'action qui sont tout à fait particuliers.
Moi ça a été la crise du Covid, après le premier confinement. J'ai été sensibilisé depuis petit à la cause écologique, mes parents m'ont un peu influencé sur ça et donc j'étais quand même dans un univers favorable à ça. Mais c'est vrai qu'après la première crise du Covid, le premier confinement, je me suis dit en fait il faut que tout ça change. Je suis resté tout seul pendant 3 mois et ça m'a fait beaucoup réfléchir et je me suis dit en fait notre mode de vie n'est pas viable, n'est pas durable. Et on sait très bien qu'avec la fonte du permafrost, avec les canicules qu'on nous prévoit pour 2050, on va être amené à être reconfiné pendant des mois quand il fera 50 degrés dehors. Pour moi ce sera comme un confinement. Et j'ai pas envie de passer toute ma vie confinée chez moi. Et donc je me suis dit, il faut agir concrètement. Avant j'étais dans les petits pas, je faisais le tri, j'essayais de consommer moins. Enfin, tout ce qu'on connaît déjà, tout ce qu'on essaye de nous faire croire que c'est ça l'écologie. Et en fait au bout d'un moment je me dis, il faut passer à autre chose. Si on veut changer les choses, il faut du concret, il faut de l'action. Et donc bon, Je suis allé jeter un œil à Extinction Rebellion un peu de loin, je me dis bon pourquoi pas en fait. Et après au final je me suis investi dedans à fond quand j'ai compris le mode de fonctionnement, les revendications et surtout l'urgence en fait, ça m'a surtout ouvert les yeux sur l'urgence. Encore plus d'être au cœur de l'action, ça m'a encore plus ouvert les yeux sur l'urgence.
Quand on parle d'action avec Extinction Rebellion, pour bien expliquer ce qui se passe, c'est pas l'écologie à la papa où on va distribuer des tracts.
C'est pas du jardinage.
C'est pas du jardinage, alors c'est quoi exactement ?
C'est de l'action directe, nous on appelle ça de l'action directe non violente. Par exemple, bloquer le ministère de la transition écologique, s'attacher les bras les uns aux autres avec des cadenas, grimper dans les arbres, ça va être utiliser tout un tas de techniques différentes pour justement empêcher, enfin retarder l'action de la police pour qu'on arrive à avoir un impact. Là on est resté 4 heures devant le ministère de la transition écologique, le boulevard Saint-Germain a été interrompu totalement et l'idée c'est d'avoir un impact en étant une masse, en étant le plus de personnes possible. On avait par exemple bloqué le pont de Sully pour dénoncer l'inaction du gouvernement et la police avait fortement réprimé et l'idée c'est qu'en étant une masse de personnes qui juste désobéissent mais de manière toujours non violente, on arrive à faire changer les choses.
Et l'idée par ces moyens d'action, c'est de pousser les politiques à agir différemment ou à un moment donné, de remplacer ces politiques.
Nous, on n'a pas pour but de remplacer les politiques qui sont là au pouvoir. Dans un premier temps, l'idée, c'est de les contraindre à changer. Un peu que, si vous voulez, comme Martin Luther King, quand il y a une masse qui fait pression, au bout d'un moment, ça change. Nous, l'idée, c'est que non seulement les politiques changent, qui changent leur manière d'agir et qui passent concrètement à l'action. Nous, ce qu'on demande en tant que mouvement, c'est la création d'assemblées populaires et citoyennes qui soient décisionnaires, déjà, contrairement à la Convention citoyenne pour le climat, et qui soient en charge de mettre en place les mesures nécessaires pour arriver à la neutralité carbone, et que cette assemblée elle soit garante d'une transition juste et équitable, et qui est décidée par le peuple, et qu'elle soit vraiment décisionnaire, que ce soit pas comme ce que fait actuellement M. Macron, enlever quelques mesures de la Convention citoyenne pour le climat, et qu'il en reste que 2 ou 3.
Il commence à y avoir beaucoup de ZAD, en fait. Ça devient un moyen d'action très performant.
Performant, oui, je pense. On l'a vu avec Notre-Dame-des-Landes. Maintenant, le problème, c'est qu'en fait, ça fait reposer toute la pression sur les épaules des citoyens et des citoyennes. En fait, si on ne fait pas de ZAD, le gouvernement, les pouvoirs publics font tout ce qu'ils veulent. Et ça devient un problème pour moi.
Les frontières sont poreuses entre militants zadistes, anarchistes, anticarcéraux, qui s'attaquent aux centres de rétention administratifs, ou les manifestants constitués en black bloc. Certains passent d'une pratique à l'autre. Tous ont en commun de mettre en danger leur corps dans la lutte, une forme de vertige de l'émeute. C'est d'ailleurs le titre d'un livre du chercheur rennais Romain Huette, paru en 2020 aux Presses universitaires de France. Donc on est là à Paris, face à l'église Saint-Sulpice, dans le très chic, je pense que c'est le 6e arrondissement de Paris, avec Romain Huette.
Bonjour.
Bonjour. Alors si on regarde un petit peu l'histoire récente, ce qui a beaucoup marqué le pavé et les émeutes sur le pavé, ce sont les gilets jaunes et la formation de ce qu'on a appelé le Black Bloc, qui n'est pas une organisation, il faut bien le rappeler.
Oui, et puis même je pense qu'avant d'ailleurs les gilets jaunes, depuis un certain nombre d'années, on voit en tout cas apparaître de façon assez évidente un rejet des manifestations traditionnelles. Je sais que c'est un peu déroutant parce que dès lors qu'il y a une manifestation, la première chose qu'on essaye de savoir, c'est quelles sont les revendications concrètes. Et là, en fait, on a une expression peut-être qui prend une forme un peu plus spontanée, en tout cas extrêmement hétérogène, et dans laquelle finalement on n'arrive pas à la lire, quoi. Et c'est aussi ce qui la rend intéressante, l'émeute, parce que on a des personnes qui en veulent au monde et qui en veulent tellement au monde que ça s'inscrit jusque dans leur corps, dans une façon d'en vouloir au monde qui s'exprime avec éclat, on peut le dire, quoi.
Et pour parler justement de ces corps aussi, il y a une autre forme d'action, alors qui n'est pas une forme d'émeute classique, qui est aussi la ZAD, les zones à défendre. C'est à un moment donné aussi le refus de la concertation classique parce qu'on considère qu'elle n'aboutira à rien. Et l'idée de se réunir, de réunir ces corps, d'ailleurs les gens partagent tout ensemble pendant parfois des semaines, des mois, voire des années, comme c'était le cas à Notre-Dame-des-Landes, ça participe aussi du même mouvement de faire corps face à des décisions de l'État qui sont vécues comme étant absurde ou en tout cas autoritaire.
On voit bien que la société dans laquelle on est ne supporte pas trop les dehors, c'est-à-dire ce qui lui échappe. Et donc les ZAD, on développe cette espèce d'idée en disant ben voilà, il est temps de faire des expériences, essayer d'inventer des formes de vie qui échapperaient au capitalisme. Et que ce soit Notre-Dame-des-Landes ou que ce soit Sivens, etc., ils ne se sont pas contentés de contester, par exemple, un projet industriel ou l'aéroport, etc. Derrière, il y avait quand même une volonté de se dire eh bien, on va essayer d'avoir un autre rapport avec le milieu naturel et aussi d'inventer d'autres formes de liens.
Et comment vous voyez d'autres actions qui mettent en jeu le corps, parce qu'ils se mettent en danger aussi, les actions d'extinction rébellion? On les a vues par exemple s'accrocher aux grilles du ministère de l'Intérieur avec des cadenas qui étaient fermés. Il fallait que les policiers les scient à la disqueuse, donc tout près de la carotide. On les a vues aussi grimper sur des monuments comme sur la Banque de France.
Oui, alors ça, je pense que ce sont des formes assez anciennes qui se revendiquent absolument pacifistes, etc. Mais on sera là encore une fois dans une expérience vivante du politique, et ça passe par une action entre guillemets de désobéissance, et dans laquelle évidemment en fait le corps va jouer une place importante.
Alors on regroupe beaucoup ces mouvements comme ça qui s'expriment, de la ZAD en passant par Extinction Rébellion, en passant par les mouvements anticarcéraux ou les antifascistes, sous le terme complètement valise d'ultra-gauche. Est-ce que ce terme a une fonction ?
Oui, moi je pense que ça a pour principale fonction effectivement de désigner ce qui est pour l'État un ennemi. Et le propre du politique, hein, c'est la division, hein, c'est de trouver des ennemis. Derrière le terme d'ultra-gauche, effectivement, moi j'ai l'impression que ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est en fait des personnes qu'on n'arrive pas à lire. Un peu, je reprends les termes de Foucault, hein, ingouvernable. Et vous savez comme on adore les catégories, parce que évidemment ça nous les rend prévisibles et ça nous permet de définir qui on a devant nous. Mais je pense que précisément en faisant ça, on ne comprend pas vraiment en fait précisément les gens qui sont dans la rue. Profitez pour mouler une cigarette.
Parmi les nouvelles formes d'action militante, il y a la désobéissance civile, prônée par Extinction Rébellion. Le mouvement fait surface en 2018, quand 6000 militants bloquent 5 des ponts de Londres. Ils réclament au gouvernement la reconnaissance d'un état d'urgence climatique. Pas en reste, les militants français font aussi dans le spectaculaire. Laurence Perron a assisté à leur prise d'assaut de la Banque de France en avril dernier.
Là, on est rue Coquillère, juste en face de la Banque de France. Et des ouvriers sont en train de mettre une échelle. C'est très bizarre, ils n'ont pas l'air d'ouvriers en réalité. On va s'approcher. Et d'ailleurs, on se rend compte que la personne qui monte sur l'échelle, en réalité, est un militant d'Extinction Rébellion, cette organisation qui se bat pour le climat et qui fait des actions assez spectaculaires, mais toujours des actions pacifistes, non violentes. D'autres militants de l'autre côté de la rue ont mis des tapis sur lesquels ils sont assis pour barrer la route. J'imagine aux éventuelles forces de l'ordre qui pourraient intervenir, ce qui devrait arriver. Hein. C'est toujours comme ça que se terminent les actions d'Extinction Rébellion. Plusieurs journalistes sont là. L'idée, c'est, comme à chaque fois, de faire une action assez spectaculaire, non violente, et de faire en sorte qu'elle soit très médiatisée. On va se rapprocher un peu. Voilà, trois jeunes femmes qui sont là en train de s'attacher avec des mousquetons et des cadenas aux grilles de la Banque de France, en hauteur.
Nous sommes tous au même système.
Islamo-gauchiste.
Oui, parce que la crise, cette crise est une crise systémique. Et nous n'avons plus le temps d'en attendre. Nous n'avons plus le temps d'attendre. Et aussi, nous avons décidé, nous, un euro-système, nous avons décidé d'agir en prenant des mesures drastiques. Fini de se réfugier derrière une neutralité, le marché,
qu'est-ce que vous êtes en train de projeter sur les murs?
C'est
du faux pétrole, d'accord, il est bien vert votre pétrole.
Je ne sais pas la recette exacte, mais c'est du faux pétrole.
C'est du faux pétrole, d'accord. Très
Donc,
Donc là, il y a la dernière grimpeuse, celle qui est restée jusqu'au bout, qui vient d'être interpellée par deux policiers. Et les policiers qui, à présent, sont en train d'enlever la grande banderole sur laquelle il y avait marqué « Argent magique, investissement toxique ». Et on revoit à nouveau réapparaître la Banque de France dans son aspect un tout petit peu dégradé au pétrole bio.
Comme quoi, avec des actions non-violentes, on peut déjà faire pas mal de choses. Et oui, la non-violence, parce que je pense que c'est un bon moyen en fait, de faire venir le plus de gens possible et de faire en sorte que chaque citoyen, chaque citoyenne puisse se reconnaître dans le mouvement et se dire « mais tiens, moi aussi, je peux agir en fait ». Qu'il n'y ait pas de frontières, qu'il puisse y avoir des personnes qui sont plus ou moins âgées, plus ou moins valides, plus ou moins expérimentées, qui puissent rejoindre le mouvement. Et cette non-violence, ça permet vraiment une inclusivité qui nous permet de devenir de plus en plus nombreux et nombreuses.
Le mouvement grossit véritablement en France.
Oui, le mouvement grossit en France. Évidemment, il y a la répression policière qui est de plus en plus forte, qui fait que c'est pas facile de se mobiliser. Aujourd'hui, on est entouré de policiers et de policières. Ça peut faire peur à certains. Mais quand même, on a chaque semaine des nouvelles et des nouveaux qui arrivent et qui vont pouvoir rejoindre le noyau dur et mener des actions, adhérer à un groupe local, etc. Soit nous rejoindre ponctuellement sur des actions en renfort militant, en fait.
Alors, ça veut dire quoi? Là, il se passe quoi?
Bon, ils vont venir nous chercher les amis un par un. Voilà, c'est ce qui va se passer.
D'accord.
Donc, solidarité.
Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent quitter le groupe avant qu'on les relève? Qui sont volontaires pour partir d'elles-mêmes?
Mais partir où?
Partir de ce côté-là. Est-ce que vous êtes volontaire sans qu'on emploie la force, d'accord, pour aller de ce côté-là? Je vous le demande.
Est-ce qu'on a
l'action? Non, pour l'instant, l'action, vous allez être maintenu sur place. Mais
ah,
vous...
ça va être une nouvelle nasse.
Exactement, ça va être une nouvelle... On vous l'a expliqué tout à l'heure. On veut libérer la chaussée, d'accord? C'est tout simple. Maintenant, les sommations ont été faites. Est-ce que vous voulez aller de vous-même de l'autre côté? Non, vous voulez rester là? C'est pas un problème. Ok, bon, bah très bien.
Ouais. Non, c'est illégal. Soulevez-le. Portez-nous.
Voilà, vous voulez nous suivre?
Merci de la presse. Ils sont des journalistes.
Bon, bah, j'ai été soulevé.
Un bel service public, hein, c'est quelque chose.
Il faut voir un peu à quoi ça ressemble, il faut expérimenter.
Ah, c'est France Inter qu'on soulève comme ça?
Oui, ça faisait pas très mal, ils ont été assez gentils.
Ah non, ils sont doux.
On ne peut pas parler de violence policière à ce stade. Ce serait injuste.
Après avoir été soulevé gentiment par la police, Laurence Perron a demandé au sociologue Romain Huette si on n'arrive pas à une forme de ritualisation des manifestations. Même si, on l'a compris dans ce reportage loin d'être exhaustif, il n'existe finalement pas une ultra-gauche, mais une sorte de terreau sur lequel pourraient éclore des mouvements de grande ampleur.
Alors si l'émeute finissait par devenir tellement ritualisée qu'en réalité elle en deviendrait un peu conformiste, vers quelle forme pourrait se tourner cette volonté pour certains de faire corps? Il y a eu des opérations de sabotage. Il y a des gens qui aujourd'hui ont pour vocation de casser ce capitalisme qu'on appelle le capitalisme de données et de surveillance.
Une des questions qui est évidemment difficile, en tout cas à poser, elle est plutôt aisée, mais il est difficile d'y répondre, c'est de se dire mais quelles sont les forces sociales du moment et dans quelle mesure aujourd'hui on peut considérer qu'il y a des forces qui sont suffisamment puissantes pour constituer un véritable corps collectif qui interpelle véritablement le pouvoir. Moi je suis frappé par le nombre de diagnostics critiques qui sont formulés aujourd'hui sur la situation actuelle et la façon dont en fait ces diagnostics sont absolument inécoutés. Et bien évidemment en fait ça conduit les gens à inventer d'autres formes d'action. Alors là encore, les formes de sabotage, ça n'existe pas depuis aujourd'hui. Elles demeurent extrêmement mineures. Alors moi, je pense qu'on est quand même dans une situation extrêmement fragile et on voit bien qu'il y a une immense énergie inemployée qui existe aujourd'hui dans ce pays. Et je pense que n'importe quel personnage ordinaire a le sentiment qu'il y a quelque chose qui est un peu en train de saturer, qu'il y a quelque chose qui est en train de craquer. Je ne serais absolument pas étonné que soudainement, en fait, il puisse y avoir de nouveau énormément de monde dans la rue. Et dans ce cas de figure, vous voyez, on ne sera plus dans des pratiques clandestines de sabotage. paysage, mais on sera dans des mouvements, en fait, évidemment collectifs, une tentative en tout cas de reposséder le politique.
Insurrection qui vient.
Oui, bah, c'est vrai que l'insurrection qui vient, c'est un livre d'ailleurs qui a eu énormément de succès, parce que d'une certaine manière, il y avait évidemment ce pressentiment que les choses ne pouvaient pas continuer ainsi, quoi, et qu'on avait atteint une telle expérience finalement du vide qu'on peut supposer qu'on ne peut pas s'accommoder à ce point, en fait, à la situation actuelle. Nous sommes dans un monde qui est quand même extrêmement brutal. De nombreux récits sont en train d'apparaître ici ou là, dans les mouvements féministes, dans les mouvements racisés, dans les mouvements écologiques, etc., qui n'arrête pas, en fait, de pointer du doigt précisément le caractère invivable de la vie que nous sommes tenus de mener, quoi. Donc, l'insurrection qui vient, c'est peut-être un livre évidemment un peu messianique ou d'espoir politique, mais je crois qu'aussi il y a quelque chose d'un peu lucide, c'est de mettre en mots la négativité de ce que nous sommes en train de vivre.
Ultra-gauche ou le grand fatras idéologique, c'était un reportage de Laurence Perron. Reportage disponible à la réécoute dès maintenant sur franceinter.fr. Prise de son, Alexandra Bergel, Frédéric Guérou, Nicolas Mathias, Martin Troadec, Jérémy Tuil et Yvan Turc. Réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier. Mixage Philippe Thibault.